toujours avec vous. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec l'équipe de choc que vous connaissez. Perrine Suquet, Margot Agnès, aujourd'hui Philippe Duval, aux manettes techniques de l'émission. Et puis un invité exceptionnel, Joël Speck, ancien patron de la CRIM de Lille, la division criminelle, très exactement, de la police judiciaire de Lille. Bonjour Joël Speck.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation parce que on se demande toujours ce que font les policiers à la retraite, parce qu'on se dit mais c'est une vie d'action, c'est une vie d'adrénaline incroyable. Comment ils surmontent ce qui doit apparaître comme une espèce de manque d'activité terrible. Comment vous avez réagi, vous? Vous êtes resté 37 ans dans la police.
Oui, j'ai encore un petit pied dans la police. Je fais de la réserve civile en tant que délégué du médiateur de la police nationale. Ouais. Mais c'est une autre histoire.
Ouais. Mais enfin, vous l'avez voulu quand même.
Oui, j'ai voulu.
Une manière de rester un peu dans la maison, ouais.
Mais je découvre qu'il y a des problèmes dans la police et à ma façon, j'essaie
de contribuer à
résoudre certains.
Ouais. Alors, je vous ai invité parce que vous venez de publier, c'était hier, aux éditions Télémac, un livre de souvenirs de cette longue carrière dans la police, Vrai flic, mémoire d'un flic du Nord, avec en sous-titre des affaires que nous connaissons tous, parce que elles ont fait souvent la une de l'actualité, de l'affaire du Carlton. On terminera l'émission parce que c'est peut-être l'enquête la plus croustillante que vous ayez menée. Quoique vous avez dirigé la police des mœurs, aussi.
Oui, j'ai dirigé
un certain temps.
J'ai eu deux périodes qui ont concerné les mœurs, quoi.
Disons. Voilà. Puis vous avez également été à la brigade de répression du banditisme. Hein, c'est quoi? C'est l'anti-gang ou c'est?
Oui, oui. Ouais. J'ai chapeauté quand je suis passé commissaire la section de répression du banditisme. C'est-à-dire la BRB, la Brigade du Banditisme, ouais. Et la BRI. Ouais. La BRI, donc, qui est un service purement de surveillance, filature, interpellation.
Voilà. D'où des fréquentations, douteuses, non, pas pour un policier.
Non.
Mais avec des ripoux, ça existe, malheureusement, mais aussi avec des voyous et avec un milieu, très spécifique, qui est le milieu, traditionnel de la ville de Lille, mais en même temps, c'est une ville qui est près de la frontière belge. Donc, il y a une grosse, activité du crime organisé dans le Nord.
Ah oui. Bien sûr, ouais. Donc j'ai connu un milieu traditionnel pendant les 15 premières années de ma carrière. Milieu traditionnel, on parlait pas des stupéfiants à l'époque, donc c'était lié essentiellement à la prostitution,
ouais.
Avec un milieu corse et niçois qui était omniprésent sur l'île.
Qu'est-ce qu'ils venaient faire à l'île?
Ça leur servait de base de repli, mais ils aimaient pas trop l'inactivité, donc ils ont forcément repris une activité qui était la prostitution de trottoir, voire de bar.
Ouais.
Et tout ce milieu traditionnel va basculer. Enfin, moi, je situe ça au milieu des années 90, c'est-à-dire en 1985, où sous les coups de boutoir de la police, de la gendarmerie, vont tomber toutes ces équipes. Mais le phénomène principal, c'est l'arrivée des stupéfiants qui va complètement
bouleverser, ouais, bien sûr.
Qui ne va pas concerner forcément que l'agglomération lilloise, la capitale, Marseille, Lyon, toutes les grandes agglomérations. Mais le phénomène, il est peut-être un peu plus accentué par dans la région Nord, à cause de ce que nous on appelait le supermarché de la drogue qui est à notre porte, c'est-à-dire la Hollande.
Belgique, la Hollande, surtout. La Hollande. Oui, bien sûr,
Et là va arriver le phénomène des banlieues. Les stupéfiants vont être omniprésents et vont entraîner d'autres formes de délinquance très très violentes, quoi. Bon, ce sont les braquages, les attaques de transport de fonds.
Ouais.
Tout va tourner autour de cette économie parallèle que génère le trafic des stupéfiants.
Ouais. Tout ça, donc, on comprend que vous n'ayez pas chômé vraiment.
Non. Mais c'était justement, c'était très diversifié. J'ai eu un travail de policier, disons, un peu à la Simenon, lorsqu'il y a eu des enquêtes particulières qu'on va peut-être évoquer.
Ouais.
Et puis, un travail, mais véritablement d'équipe, quoi. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier.
Ouais.
C'est que c'est vrai, c'est véritablement un travail d'équipe.
C'est un travail d'équipe. C'est pas comme à la télé où il y a le flic qui tient le haut du pavé. Et les autres sont aussi très...
Nouveau phénomène aussi que j'ai découvert. J'ai connu des enquêtes où c'était les enquêtes traditionnelles, les auditions de témoins, les... avoir des aveux, chose qui va quand même bousculer aussi le travail policier, c'est l'apport de la police technique et scientifique.
Bien sûr, c'est une vraie révolution
dans les enquêtes. Heureusement, je l'ai vécu.
Alors, moi, il y a une chose qui m'a amusé, on va pas... Conseil à ceux qui vous écoutent de plonger dans les coulisses vraiment d'un travail de policier qui comporte plein d'aspects que vous revisitez à l'occasion de ce livre de souvenirs. Mais moi, ce qui m'amuse toujours, c'est ces fameux surnoms du milieu, parce que on est dans les tontons flingueurs, quoi.
Jojo
la béquille, vous devez en avoir quelques-uns en tête ces noms.
Roger les yeux bleus, Roger la banane, Dodo la saumure. Pour terminer.
Et voilà, dont on parlera tout à l'heure. Ça vient d'où ça c'est vraiment le milieu traditionnel. C'est l'héritage du milieu.
D'ailleurs, dans cet ouvrage, j'en décris certains. C'est de véritables personnages à la Audiard, quoi. Ouais. Il y en a un que je compare à Jean Carmé, parce que c'était le sosie de Jean Carmé, quoi. Mais c'était vraiment le mien. Maintenant, c'est un milieu très aseptisé par l'uniformité de ce milieu des banlieues où ils se ressemblent tous. Ils ont tous les mêmes méthodes. Et puis, à l'époque, ce milieu avait des activités diverses et sectorisées. Ceux qui faisaient dans la prostitution ne faisaient pas dans le banditisme. Ceux qui faisaient des perceurs de coffre-fort...
Chacun sa spécialité.
Ce qui permettait à la police de mieux s'y retrouver qu'à l'heure actuelle.
Oui, alors, grâce aussi à des indices, vous consacrez un chef aux indiques. Il n'y a pas de bonne police sans indiques.
Ah non, je pense.
Vous n'avez pas d'infos, quoi.
Je pense que j'ai découvert ça dans le management qui m'a été prodigué lors de mes formations, qu'on doit être proactif. Mais en fait, on n'a jamais attendu d'être proactif. On savait très bien que, comme je le dis dans le livre, comme un VRP, il faut aller à la rencontre des clients. Et donc, si on veut être un bon policier, il faut travailler avec des informateurs.
Et alors après, il faut savoir où est la ligne jaune, quoi.
Ah voilà, il ne faut pas dépasser la ligne jaune. Il y a un ou deux exemples dans le livre. De gens que je respecte, mais je crois qu'ils ont...
Que vous mettez dans leur peau et vous comprenez comment...
Je pense que à un moment, il faut un autocontrôle et il faut aussi un contrôle de la hiérarchie. Ouais. C'est pour ça que quand je dis c'est un travail d'équipe, c'est véritablement un travail d'équipe. Moi, je surveillais les infos de mes subordonnés parce que j'avais toujours peur d'un dérapage, d'une compromission,
On va faire une pause là, on va entrer dans une histoire particulière. C'est vraiment la longue traque, 14 ans quand même, pour arrêter un tueur en série, un tueur d'enfants, un serial killer pédophile. C'est une enquête qui a mis sur les dents, en fait, pendant toutes ces années, toutes les polices, on peut parler des polices au pluriel. L'homme s'appelle Denis Waxin, et dans un petit instant, ensemble, on va raconter aux auditeurs à la fois comment les meurtres de cet homme ont vraiment créé une psychose dans certains quartiers, notamment de Lille. Et puis ensuite, surtout, on racontera, malgré le sable, comment il a été arrêté au bout de toutes ces années.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous sommes le vendredi 22 novembre 1985. Il fait gris et froid sur l'île ce jour-là. Les tours des Biscottes dans le quartier sud de la ville sont noyées dans un crachin tenace. À 16h30, la petite Nathalie O'Haro rentre chez elle après l'école. Nathalie a 6 ans. Dès son arrivée à la maison, sa mère la renvoie aussitôt juste en bas des tours pour acheter du pain pour le dîner ainsi que des cigarettes pour son père. Trop contente de ressortir, la fillette prend l'argent que lui tend sa mère. Elle redescend prestement. Il est 16h45. Un peu plus tard, Madame O'Haraud, étonnée de ne pas revoir, de pas voir revenir la petite, décide d'aller elle-même à sa rencontre. Elle passe au tabac et puis à la boulangerie et elle doit se rendre à l'évidence. Nathalie a disparu. Elle s'est littéralement volatilisée dans un tout petit triangle délimité par la rue Abélard, la rue Marcel Hainaut et la rue du Faubourg d'Arras, une grande artère très passante. En rentrant chez elle, Madame O'Haraud appelle la police. Après plusieurs heures de recherche, le corps sans vie de la petite Nathalie est retrouvé sur un terrain vague, tout proche de la boulangerie. Le corps est à peine dissimulé dans un buisson à ses côtés, sur le sol. Les cigarettes qu'elle était partie chercher, et aussi des bonbons éparpillés. Sur sa joue, la trace d'une larme séchée. La fillette a été violée, son corps est lardé de coups de couteau. 5 ans quasiment jour pour jour après le meurtre de la petite Nathalie, le 9 octobre 1990, un homme promène son chien le long du boulevard Victor Hugo, comme il le fait chaque soir avant le dîner. Et cet homme découvre, dans la lumière atténuée du soir qui tombe, le corps d'une petite fille dénudée, ensanglantée. Elle est morte. Elle s'appelle Cathy Monchaud. Elle a 9 ans. Une vague d'angoisse submerge les quartiers de l'île sud, de Moulins, de Oisem. Pourtant, les forces de l'ordre ne ménagent pas leurs efforts. Le quartier est passé au peigne fin, à la recherche du moindre indice. Les policiers font du porte-à-porte pour tenter de recueillir un témoignage, même infime, qui les mettrait sur une piste. Ils interpellent les passants, ils visitent les commerçants, ils posent des centaines de fois la même question. Avez-vous vu quelque chose ? Les enquêteurs passent ensuite dans les quelques cafés voisins du lieu de la disparition de la fillette. Dans l'un de ces cafés, plusieurs consommateurs jouent aux cartes en buvant de la bière. Les policiers les interrogent. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose d'inhabituel ? Est-ce qu'ils ont aperçu la petite Cathy dont ils rappellent la description physique ? Tout le monde répond par la négative, y compris un jeune homme. Un jeune homme au crâne dégarni prématurément, un certain Denis Waxin, qui joue régulièrement aux cartes dans ce café. Il était là la veille, il n'a rien vu. Et l'enquête piétine. Nous sommes maintenant à la fin du mois de juillet 1992. Depuis plusieurs jours, on est sans nouvelles d'une petite fille de 4 ans, Nadia Tebib. Elle passait ses vacances chez sa grand-mère qui habite rue Georges Mandel, non loin de l'hôpital Saint-Vincent. La police multiplie les battues, parcourt les rues en tous sens à la recherche de l'enfant. Elle est finalement retrouvée morte, elle aussi, le 29 juillet, 6 jours après sa disparition, dans un terrain vague de Ronchin, à moins de 2,5 km de chez sa grand-mère. Nadia a été violée, poignardée, étouffée dans un sac en plastique. 7 ans plus tard, le 6 janvier 1999, c'est un mercredi, la petite Wendy, âgée de 6 ans, collecte un peu d'argent pour l'opération pièce jaune avec son frère et sa sœur dans l'immeuble où ils habitent, à l'île Moulin. Dans la cour de l'immeuble, Wendy va au devant d'un homme grand et maigre, plutôt blond, d'une 30aine d'années. Elle lui tend sa petite tirelire en carton, elle lui demande s'il veut bien donner une ou deux pièces jaunes. L'homme met machinalement la main dans sa poche et il dit à la petite fille « Ah, j'ai pas d'argent sur moi, mais viens les chercher avec moi, j'ai des tas de pièces jaunes chez moi ». Wendy refuse. Elle refuse parce qu'on lui a toujours dit de ne jamais suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais l'homme jette alors un regard rapide à droite et à gauche. Il prend le bras de la fillette et il l'emmène fermement avec lui. Wendy ne comprend pas ce que lui veut ce monsieur qu'elle n'a jamais vu. L'inconnu s'appelle Denis Waxin. Il entraîne l'enfant vers une usine désaffectée où elle connaîtra l'horreur pendant plusieurs heures. La petite fille, hébétée, sera recueillie en fin d'après-midi par une passante qui la conduit directement au commissariat central de Lille. 2 jours plus tard, par la fenêtre de sa grand-mère, Wendy aperçoit son agresseur qui passe dans la rue. Affolée, elle se décide à tout raconter à ses parents en détail avec ses mots d'enfant. Ses parents l'emmènent aussitôt de nouveau au commissariat. Les policiers lui présentent une 20aine de photos de délinquants sexuels, mais aussi celles de personnes connues de la police, comme on dit, ayant quelques traits de ressemblance avec le portrait robot, des personnes qui sont fichées pour de menus larcins. Et c'est parmi ces photos que celle de Denis Vaxin. Denis Vaxin qui avait eu affaire à la police pour un vol dans un supermarché alors qu'il avait à peine 20 ans et remarqué par Wendy. Elle est formelle. C'est lui, dit-elle. Les policiers organisent le lendemain un tapissage et derrière une vitre sans teint où sont alignées une dizaine de personnes, la petite fille, sans aucune hésitation, désigne l'homme qui porte la pancarte numéro 6. Le numéro 6, c'est Denis Vaxin. Denis Vaxin avait tout juste 17 ans en 1985. Sur RTL, Christophe Decroix dresse le portrait de cet homme jusque-là insoupçonnable qui vient d'avouer aux enquêteurs le meurtre d'une petite fille de 4 ans en 1992.
Denis Vaxin, 32 ans, est un homme robuste d'1m80 à la calvitie naissante. Ce menuisier de formation s'est marié durant l'été 1991. Sa femme le décrit comme quelqu'un de sensible, de serviable, incapable de faire du mal. Le couple, qui habite un petit deux pièces décoré de tableaux de mer et de bateaux, n'a pas eu d'enfant. Ses anciens employeurs disent de lui qu'il est parfois un peu simplet, mais effectivement plutôt gentil. Il a travaillé comme pompiste, homme à tout faire dans différentes stations essence de la métropole lilloise. Les policiers qui l'ont entendu disent avoir rarement rencontré des individus comme lui. Un homme parfois absent, sur lequel le monde extérieur n'a plus alors aucune prise. L'interrogatoire fut difficile, mais disent les enquêteurs, sous ses airs simplés, il est suffisamment intelligent pour être retors et ne pas se laisser embarquer là où il ne veut pas qu'on l'emmène. Comme seule explication à ses actes odieux, il a répondu « J'ai certaines pulsions ».
Les prélèvements ADN effectués sur Vaxin sont comparés avec celles relevées dans les affaires de mœurs non élucidées des années précédentes et la signature génétique effectivement prélevée sur la petite Nadia Tebib tuée en 92 appartient bien à Vaxin. Il est confondu et c'est là qu'il avoue avoir avoir violé et tué Nadia et Cathy. Et pendant l'instruction, il va confesser aux enquêteurs aussi deux autres viols de petits garçons de 7 et 10 ans à la fin de l'année 1993, à Moulins et à Lambessart. Il va livrer ses aveux en parlant de lui à la troisième personne, comme s'il était totalement étranger à ses actes. Il ne reconnaîtra son tout premier meurtre, celui de la petite Nathalie O'Haraud, qu'au cours de son procès. Une pause, et dans un instant, avec Joël Speck, nous revenons sur la longue traque des policiers et sur cette enquête qui n'en finissait pas.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Vrai flic, mémoire d'un flic du Nord, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions Télémac il y a moins de 24 heures. Son auteur Joël Speck est l'invité de l'heure du crime. Joël Speck a dirigé la crime de Lille pendant de longues années. Il raconte dans ce livre de souvenirs 37 ans d'activité à des postes d'observation très différents. On en parlait tout à l'heure, que ce soit police des mœurs, la traque évidemment du grand banditisme et de la criminalité organisée. Ou encore, ce que vous disiez, le travail de Simenon, de Maigret, même si c'est pas comme dans les Simenons, vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, quand une enquête réussit, c'est vraiment à cause d'un travail d'équipe. Et j'avais envie de vous dire, là, ces 14 ans d'enquête sur lesquels on va revenir, vous n'avez pas, vous, mené l'enquête pendant 14 ans, mais du côté de la police, quand une enquête s'enlise comme ça, quand on n'y arrive pas, parce qu'on va découvrir à la fin du compte que c'est un homme ordinaire qui a commis ses horreurs, et donc un homme insoupçonnable. Vous dites quoi en tant que policier ? Il y a un défi qu'on se lance
Oui, je pense que... Moi, pour ma part, j'ai été le directeur d'enquête de la première affaire du crime de Nathalie O'Haraud. J'ai gardé le dossier pendant 4-5 ans sous la directive d'un magistrat instructeur. Ouais. Et ça a été un véritable crève-cœur quand j'ai dû rendre mes derniers PV et reconnaître qu'on avait un échec. Là, on parlait pas encore de serial killer puisque on n'avait qu'un crime. Bon, ça peut être l'acte d'un déséquilibré qui n'allait pas récidiver et tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour... je rencontrerai à nouveau dans d'autres enquêtes. On a suivi des pistes qui partent de témoignages erronés, mais de gens de bonne foi qui croient apporter leur un témoignage important, mais qui nous ont emmenés sur des pistes de longue durée.
Vous êtes obligé de les suivre, ces pistes.
Mais bien sûr, on est dans une affaire criminelle. De toute façon, toutes les pistes doivent être exploitées. Donc moi, après ces 4-5 premières, ces 4-5 ans à enquêter sur le crime de Nathalie O'Haraud, je suis passé à d'autres fonctions. Je suis responsable du GIPN, mais toujours dans la ville de Lille, quand survient le deuxième crime de Cathy Monchot. C'est un de mes collègues qui est maintenant, qui malheureusement est décédé, qui est le directeur d'enquête. Et forcément, je m'intéresse à cette nouvelle enquête, quoi.
Vous faites le rapport?
Ah là, tout de suite.
Immédiatement?
Tout de suite. Enfin, par le mode opéré, les coups de couteau multiples, strangulation, l'absence de sperme dans ces deux affaires-là, viol, mais avec probablement un objet contendant.
Il y a une signature criminelle.
Il y a une signature criminelle. Et là, on commence à parler d'un serial killer. Et dans les années qui vont suivre, dans les 10 ans qui vont suivre, on va faire passer... On n'a pas eu besoin de créer une cellule spéciale pour enquêter sur ce serial killer. La cellule a été... c'était la ville de Lille. La police en général.
Tout le monde se sentait concerné.
Et les magistrats. Ouais. Tout le monde se sentait concerné. Tout le monde savait qu'on avait, on avait dans notre cité, on avait un serial killer susceptible de récidiver. Je ne m'attendais, concours de circonstances. 92, j'ai fait une scolarité, à Lyon, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, comme commissaire, et je suis en stage. Quand survient en 92 le troisième crime, celui de Nadia Tebib.
Nadia Tebib, oui.
Je rejoins les équipes d'enquête, mais en tant qu'observateur, puisque j'ai pas un rôle actif. Mais là, tout de suite, il m'interroge. C'est notre serial killer. Oui, pour moi, c'était évident que c'était le serial killer. La façon d'emmener les enfants, Et à nouveau.
Et comment expliquer aux parents qu'on n'arrive pas à
Non, mais là, c'est un rôle très difficile. Enfin, je l'évoque parce que moi, j'ai surtout eu affaire au premier crime. Effectivement.
Ah, vous aviez fait une sorte de promesse?
Oui, bien sûr, promesse que j'étais pas sûr de tenir. Dans la nuit même, à la mère de Nathalie O'Haraud, je lui ai dit qu'on ferait tout et qu'on allait arrêter le meurtrier. Mais au fond de moi-même, j'avais quand même... d'ailleurs, mon livre, c'est « Croire et douter », mais là, j'avais un doute.
C'est votre devise, « Croire et douter ».
C'est celle de Célestin Aignon. Dont je me suis accaparé, parce que je pense qu'elle reflète véritablement le travail de police. Et d'ailleurs, dans ces trois enquêtes, des suspects auraient pu faire de longs mois de détention, suspectés d'avoir commis un de ces trois crimes, voire ces trois crimes. Et justement, c'est « Croire et douter », douter, ça veut dire disculper, ne pas...
veut dire aussi éviter l'erreur judiciaire.
Ça veut dire éviter l'erreur judiciaire. Donc, échec sur ces trois crimes, 92. Moi, je suis passé à d'autres activités, le banditisme et choses comme ça. Mais les collègues qui m'ont succédé à la brigade des mœurs du commissariat central, un jour, en 99, viennent me trouver. Ils me disent « On croit qu'on a identifié l'auteur des crimes. »
C'est l'histoire de la petite Wendy qui repasser son agresseur.
Et vous l'avez évoqué, mais chose assez extraordinaire, c'est que ils vont tirer 6 clichés photographiques dans un album qui comporte des milliers, des millions de photos. Forcément, ils ont la description d'un marginal. Donc, ils vont chercher des photographies. Ils incluent la photo de ce marginal, mais ils cherchent des gens ressemblants. Et par un hasard extraordinaire, ils vont tirer, par hasard, la photo d'un type qui s'appelle Denis Vaxin, qui a été condamné, qui a été arrêté vol à l'étalage 2-3 mois auparavant. Preuve en est que le travail de base de la police doit être effectué, qu'il n'y a pas que des grosses enquêtes. Et c'est ça qui va identifier. Bien sûr, après interviendront les empreintes génétiques
qui vont venir confirmer.
Mais vraiment là, c'est un hasard extraordinaire de sortir la photo de ce type.
Et cette petite fille qui désigne le tapissage là.
Frustré de pas avoir sorti ces trois enquêtes en temps, en heure, mais on se dit que c'était impossible, quoi. Ouais. Impossible, parce que même si on avait eu des empreintes génétiques sur le premier crime, à l'époque on parlait pas du fichier des empreintes génétiques, oui, tout ça. Oui. Mais même si on l'avait eu, le type était indétectable parce qu'il était
pompiste. Pompiste. On va parler on va faire une pause et tout de suite après on va parler de qui était ce type qui a commencé à tuer quand même à 17 ans, et dont la vie effectivement va stupéfier tous ceux qui vont s'intéresser à lui à partir du moment où il aura avoué ses crimes. À tout de suite.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et aujourd'hui, l'invité de l'heure du crime, Joël Speck, qui publie aux éditions Télémaque « Vrai flic, mémoire d'un flic du Nord ». Parmi les très nombreuses affaires dont vous parlez, on a choisi de revenir sur celle-là, parce que évidemment, elle est exceptionnelle dans tous les sens du terme. Quoi. Elle aurait pu se terminer sur un échec, et puis ben voilà, la ténacité, la volonté, comme vous le rappeliez tout à l'heure, à la fois des enquêteurs, des magistrats, et puis de l'opinion quoi aussi, tout le monde voulait aboutir. Et lorsque on finit par identifier, grâce à cette petite fille qui a réussi à échapper à Waxin, d'ailleurs je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on sait pourquoi il ne l'a pas tuée, elle? Est-ce qu'on a pu répondre à cette question?
Pas véritablement, mais je pense que elle était très... Enfin, moi je ne l'ai pas connue, ce sont mes collègues qui ont procédé aux auditions, mais d'après ce qu'ils m'ont dit, elle était très, très éveillée, très alerte, très... Elle a eu très peur, mais elle a fait preuve d'initiative. Et à un moment, elle a profité d'un mouvement d'inattention que les trois premières victimes n'ont pas pu faire, malheureusement.
Alors vous l'avez vu parce que vous êtes allé au procès, hein, évidemment. Donc vous avez vu l'homme que vous aviez traqué pendant toutes ces années sans pouvoir l'arrêter. On va écouter un document RTL qui date du 27 mai. 2002. Le 27 mai 2002, c'est l'ouverture devant les assises de Douai du procès de Denis Waxin, donc accusé de viol, de meurtre. Comme il était mineur au moment des faits, le procès va être scindé en deux. Au début de la semaine, la cour va s'intéresser aux faits les plus récents, chronologiquement. Et puis en fin de semaine, on en vient à l'affaire que vous aviez, suivi comme chef d'enquête, 1985. Et on va entendre le compte-rendu de cette première audience par notre correspondant dans le Nord, que vous connaissez bien, Frank Hanson.
Assis au premier rang de la salle, les proches des petites victimes contiennent difficilement leurs larmes. La lecture des atrocités reprochées à l'accusé est longue et pénible. Dans son box, Denis Waxin conserve le regard fixe, mais ne laisse transparaître aucune émotion. L'ancien pompiste lillois, avec sa barbe noire et ses lunettes rondes, a presque des airs à la marque du trou. Si l'affaire a pu éclater à l'été 99, c'est grâce à la formidable présence d'esprit d'une fillette de 6 ans, Wendy, qui parvient à échapper au tueur. L'homme lui avait fait subir des attouchements en la menaçant. « Si tu ne viens pas avec moi, tu ne reverras plus tes parents. J'ai déjà tué des petites filles. » Waxin, à l'époque, n'était connu que pour un vol à l'étalage. Identifié par la petite Lilloise, il avoue également le meurtre de la petite Nadia, 4 ans, retrouvée violée et poignardée 7 ans plus tôt. Les enquêteurs ressortent alors les dossiers de Nathalie Waro et Cathy Monchot, deux fillettes de 7 et 9 ans, disparues elles aussi au pied de leur immeuble et assassinées dans les mêmes conditions. Des crimes qui hantaient les quartiers sud de Lille depuis 85. Denis Waxin, dont l'épouse n'avait rien remarqué de ses agissements, reste insaisissable, évoquant des pulsions. Il explique avoir été violé à l'âge de 12 ans, qu'il y a un bon Denis et un mauvais Denis, mais il est revenu sur ses déclarations « Je l'ai fait, c'est tout ». Toujours potentiellement dangereux, selon les experts, cynique, il se sent déjà jugé, confiant à son avocat « Je ne suis pas aimé d'en haut ».
En fait, il plaide le dédoublement de personnalité, quoi.
Oui. Enfin, c'est un peu, d'ailleurs, un peu la marque de ces serial killers à connotation sexuelle. Hein. Ouais. À un moment, leurs pulsions sont tellement irrépressibles qu'ils passent à l'acte. Quoi.
Et alors, lui, il passe à l'acte avec des années de non-activité, ou c'est parce que on ne sait pas ce qu'il a fait.
Sur la première affaire que j'ai traitée, celle de Nathalie O'Haraud, il était véritablement encore plus indétectable, puisque il a 17 ans, il revient d'un lycée ou d'un collège, il est en bicyclette lorsqu'il croise Nathalie O'Haraud. D'après ses explications qu'il a données, bien des années plus tard, c'est une pulsion soudaine qui l'a incité à commettre ce premier acte criminel.
Ouais. Et 6 ans plus tard, il faut dire, tout ça l'enquête va le démontrer, il a 23 ans, il vient de se fiancer ou de se marier, et sa femme va s'apercevoir de rien et il va continuer. Il est toujours pompiste.
Ouais.
Il va jouer aux cartes au café.
Sur la deuxième affaire, Cathy Monchot. Et il mène une vie assez exemplaire. Nous quand on recherche le meurtrier suite au premier crime, voire au deuxième crime, on va faire les hôpitaux psychiatriques, on va faire les maisons d'arrêt, les prisons, mais en fait on a affaire à quelqu'un, un citoyen lambda.
Alors puisqu'on parle de votre livre de souvenirs et vous évoquez beaucoup d'affaires. Et aussi beaucoup d'affaires comme ça de meurtre. Et il y a des permanences d'une affaire à l'autre ou d'un criminel à l'autre ou à chaque fois c'est une autre histoire, une autre énigme à résoudre.
Non, je pense que c'est une autre histoire. Enfin, c'est à chaque fois une autre histoire. Bon, sur les crimes d'enfants, j'en ai traité malheureusement de trop. Oui. La dernière affaire, c'est l'affaire Tiffaine où
c'était les parents qui avaient dit que la petite avait disparu.
Voilà, qui avait disparu. Voilà, un Maubeuge. L'actualité prouve que ça se répète. Il y a l'affaire Fiona, je crois, à l'heure actuelle.
Et c'était une enfant martyre, la petite.
C'était une enfant martyre. Les motivations sont tout à fait différentes. Mais l'énigme, au départ, il y a énigme. D'ailleurs, dans l'affaire Tiffaine, on va exploiter aussi la piste de tous ces détraqués sexuels qui maintenant sont inscrits, dans un fichier. On a copié avec bien du retard, malheureusement, ce que font les Britanniques. Je pense que le suivi des délinquants sexuels.
Ça peut apporter beaucoup.
Ça peut apporter beaucoup. Dans le livre, j'évoque aussi l'enlèvement du petit Elian Coca-Court sur Roubaix par l'affaire Évrard. Le suivi de ces délinquants sexuels.
Sortir de prison.
C'est primordial.
Comment on intègre ça dans sa vie personnelle comment on rentre chez soi? Comment on fait le soir en rentrant chez soi quand on a soit été sur la scène d'un crime, vu
chaque enquêteur réagit selon son tempérament. Alors moi, on me disait un peu froid. J'avais toujours une certaine distanciation par rapport aux enquêtes. Pour moi, c'était une énigme et il fallait trouver la solution à la fin de.
Ça vous renforçait plutôt dans votre envie d'aboutir.
Des crimes d'enfants, moi j'ai vu des collaborateurs être beaucoup plus passionnés, passionnés, quoi. Bon, ils s'identifient aux parents des victimes. Moi j'avais toujours un certain recul, un certain sang-froid, parce que j'essayais de trouver la solution.
Quelle est l'affaire sur ces 37 ans qui vous a le plus marqué? Est-ce qu'on peut poser cette question-là? De l'extérieur, on pense toujours qu'il y a une affaire plus percutante que les autres.
C'est peut-être pas une des affaires les plus emblématiques ou les plus médiatiques, mais je l'évoque dans le livre. Dans les années 82, j'ai traité le viol d'une jeune femme, heureusement qui s'est pas terminé par un crime, qui s'est passé dans un appartement, en présence de sa fille âgée de quelques années, et 10 ans après, alors que je me trouve dans les couloirs de la PJ, je vois arriver cette dame que je reconnais avec une jeune fille et sa fille, 10 ans après, elle est victime d'un autre violeur en série. Les deux affaires vont être solutionnées. On m'a remis des médailles, on m'a donné des témoignages de satisfaction des plus hautes autorités, mais je garde précieusement chez moi, dans un dossier, la lettre de cette mère qui me remerciait sur la première affaire, qui me disait qu'on avait fait un travail.
Ça
n'a pas de prix.
La meilleure des récompenses.
Voilà, ça n'a pas de prix.
Alors on va faire une pause et puis on va parler de sujets plus légers, moins sanglants.
Moins sanglants.
En tout cas, en lien avec la police des mœurs, dont vous avez été le patron pendant pas mal de temps. Et puis la dernière histoire un peu croustillante qui vous soit arrivée avant la retraite, c'était l'affaire du Carlton de Lille.
L'heure du crime sur RTL.
Et c'est la dernière partie de notre émission consacrée à celui qu'on appelle d'ailleurs, paraît-il, hein, on me l'a dit, Joël Speck, là, une mémoire de la PJ, la mémoire de la PJ de Lille. Hein, c'est comme ça que vous...
De la police lilloise.
Même de la police, voilà, parce que la PJ, c'est une partie de vos...
C'est une partie.
De votre carrière longue de 37 ans. Vous avez publié ces souvenirs sous le titre Vrai flic. Le livre est Mémoire d'un flic du Nord. C'est sorti hier aux éditions Télémaque. Et on va aborder alors la fameuse affaire du Carlton de Lille. Mais en fait, vous êtes là au tout début de cette affaire. On va y revenir dans un instant. Oui, parce que vous êtes sur les traces d'un certain Dodo Lassaumur.
Voilà, j'en suis à l'initiative, mais j'en ai pas assuré l'exploitation. Le service après-vente, c'est pas moi.
La suite, vous la lisez dans les journaux ou vous en avez des échos avec vos collègues qui sont sur l'enquête. Alors, il faut rappeler les choses très rapidement. On apprend en octobre 2011, hein, ça remonte à 2011 le début, que suite à des informations reçues au début de cette année-là, le directeur du Carlton de Lille et son directeur des relations publiques sont mis en examen pour proxénétisme. Et c'est le début donc de cette affaire. On commence à parler de
l'affaire officielle.
De l'affaire, oui, officielle, mais ça, après, vous allez on va remettre les montres à l'heure ensemble. Mais c'est là où on commence à parler publiquement aussi de la participation de DSK, des parties fines, etc. Et puis, début novembre 2011, un mois après, Dodo Lassaumur, qui est à l'époque en prison en Belgique, sort et il s'explique sur ses activités. Il dit qu'il connaît pas, vous allez l'entendre, hein, qu'il connaît pas DSK, qu'il sait pas ce qui s'est passé, qu'il est pas du tout impliqué là-dedans. Et ces déclarations sont recueillies par Mathieu Delahousse pour RTL, interview diffusée dans RTL Matin le 3 novembre 2011. On va écouter maintenant, donc.
On remet en liberté parce que la cour d'appel a étudié le dossier. Je suis en aveu depuis l'an 2000, c'est-à-dire je tiens des maisons de tolérance depuis 2000 en Belgique. Tout le monde sait très bien qu'il y a 800 bordels en Belgique. Je me retrouve en prison. Bon, tout le monde doit savoir d'où ça vient. Hein. Bah, ça, l'affaire du Carlton, il n'y a pas d'affaire du Carlton. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a jamais eu de fille mineure, ça je tiens à le préciser. C'est des hommes d'affaires qui ont connu des filles, disons, légères, vénales, qui ont présenté à d'autres hommes d'affaires. Point final. DSK, d'abord, j'ai pas fourni des filles. Les filles sont indépendantes chez moi, complètement. Il y a deux filles qui travaillent chez moi, qui ont rencontré DSK à Paris. Point final, je savais même pas qu'elles allaient voir DSK. Et il n'y a pas eu de viol, il n'y a jamais rien eu. Elles ont déjeuné avec DSK ou dîné avec DSK, point final.
DSK, vous dites, vous le connaissiez pas?
Absolument pas. Moi, je crois que c'est une affaire qu'on a voulu faire un peu mousser, faire un peu de Léo Diard ou bien de l'Alphonse Boudard. Bon, j'avais un bon surnom, bah, ça a permis d'alerter la presse, disons.
Et alors, rendons à Frank Hanson ce qui lui appartient. C'est lui qui a recueilli les déclarations de Dodo Lassaumur le 10 janvier 2012. Très exactement, Mathieu Delahousse lui avait suivi l'affaire l'année précédente. Alors maintenant, Joël Speck, justement, vous disiez le début officiel de l'affaire. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce que vous dites dans votre livre sur cette affaire du Carlton? Ouais.
Alors en fait, j'ai voulu aussi tordre, en écrivant ce livre, ça m'a doublement motivé, j'ai voulu tordre un peu le cou aux rumeurs. En fait, le contexte, on a une recrudescence d'affaires de prostitution à destination de la Belgique à l'époque, et au sein de l'APJ, c'est pas véritablement notre travail de traiter les affaires de proxénétisme. On laisse faire ça aux sûretés urbaines locales, et sauf quand il y a un aspect international. Et coup sur coup, 2009, 2008, 2009, début 2010, on va être amené à traiter plusieurs affaires de prostitution à destination de la Belgique. Et c'est ça qui va entraîner la création d'un groupe spécifique proxénétisme au sein de la PJ Lille. Le besoin s'en faisant sentir. Mm-hmm. L'autre aspect, c'est que Dodo Lassaumur, que j'ai connu, moi, 20 ans ou 30 ans avant, que j'ai côtoyé à 2-3 reprises au cours de ma carrière, qui faisait partie du milieu traditionnel que j'évoquais en début d'émission, lui, il s'est pas lancé dans le trafic de stupéfiants. Il a compris que c'était assez lucratif d'aller exploiter les femmes en Belgique.
Oui, parce qu'en plus, c'est légal.
Oui, c'est toléré. Les maisons de tolérance sont tolérées. Ce qui d'ailleurs pose certains problèmes entre les deux pays. Mais donc Dodo s'est lancé, il se rappelle régulièrement notre bon souvenir en passant dans des émissions télévisées pour vanter le charme de ces établissements. Et d'un autre côté, moi je suis un peu, pas harcelé, mais poussé à la roue par mes collègues de la police fédérale belge qui n'ont pas les moyens juridiques pour accrocher Dodo, de faire tomber Dodo. Donc nous, à l'APJ, on attend l'opportunité. Et en fait, celle-ci va se présenter au mois de juin 2010, lorsque quelqu'un de bien avisé est venu me dire que si on voulait à l'APJ faire tomber Dodo la Saumure, il fallait s'intéresser au directeur de communication du Carlton. Donc René Cochefer, que je connaissais aussi, Donc voilà comment a démarré, mais bon, moi je suis à 4 mois de ma cessation d'activité, donc j'ai lancé les premières vérifications, j'ai chargé le groupe proxénétiste qui allait se créer au sein de l'APJ de mener les premières vérifications. À quelques jours de ma cessation d'activité, forcément je me renseignais sur l'évolution de l'enquête, on me disait que tout allait bien, que ça allait sortir, et effectivement, après mon départ, a démarré l'enquête préliminaire officielle, après l'information judiciaire, et c'est à ce moment-là que vont, par les écoutes téléphoniques, vont être découverts, l'aspect DSK, chose que moi, j'ignorais totalement à l'époque.
Et la mise en cause de certains de vos collègues, quel regard vous portez, vous, sur cette affaire? Qu'est-ce qui est illégal, exactement, là-dedans? Alors, on dit toujours, c'est le proxénétisme qui est illégal.
Non, mais là, je pense que, certains collègues, il y en a peu, puisqu'en fait, il y a un collègue véritablement mis en cause dans cette affaire, celui qui a fait les déplacement à Washington. Je pense qu'il a franchi la ligne jaune. Il a franchi la ligne jaune. Mais je l'évoque dans mon bouquin que ce collègue, je l'estime toujours professionnellement, parce que c'était un très bon professionnel, au même titre que Michel Néré à Lyon, que j'ai connu, qui est un très bon professionnel. Et maintenant, la police s'autorégule par elle-même, puisque ces affaires-là, c'est des policiers qui ont mis à jour les dysfonctionnements d'autres collègues.
Et c'était la justice maintenant de trancher. Elle le fera dans quelques semaines ou dans quelques mois. Je vous remercie beaucoup, Joël Speck. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Vrai flic, donc j'envoie tout le monde à ce livre absolument passionnant, bourré d'adrénaline. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment, c'est un fil rouge dans ce livre. Mémoire d'un vrai flic du Nord, vrai flic. C'est aux éditions Télémac. L'émission est terminée. On va retrouver très très rapidement Flavie Flamand.